Autrefois, nous dit Paul, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu par Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné en vain de la peine pour vous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi religieuse, n'entendez-vous pas ce que dit la loi religieuse, donc la Torah? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né selon la chair, et celui de la femme libre est né du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, nous dit Paul, car ces femmes sont la figure de deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, engendre pour l'esclavage. C'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem céleste d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Sois en fête, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la femme qui est sans maître sont plus nombreux que celles de la femme qui a son maître. Quant à vous, mes frères et mes sœurs, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et Paul conclut ainsi : Frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais ceux de la femme libre. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, il évoque donc l'histoire d'Agar dans la Genèse. Cette histoire est absolument révoltante quand on la lit au sens matériel, historique du terme. Abraham chasse donc Agar dans le désert avec son fils et sont prêts de mourir de soif. C'est donc très heureux que Paul en fasse une lecture allégorique. Lecture très fréquente à l'époque de Jésus. Saint Paul dit que l'histoire d'Abraham évoque deux façons d'être en ce monde, deux façons de répondre à cette question: qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait agir? Qu'est-ce qui nous fait prier Dieu? Est-ce que nous sommes fils et filles d'Agar, l'esclave? Ou est-ce que nous sommes fils et filles de la femme libre, fils et, ou filles de la promesse de Dieu faite à Abraham? Sans doute sommes-nous tous un peu des deux. L'enfant de l'esclave, qu'est-ce que c'est? Il agit, l'esclave, il agit parce qu'il s'y sent contraint par son maître, comme un esclave obéit afin de ne pas être battu et puis de pouvoir garder la vie. L'enfant de l'esclave, c'est celui qui agit ainsi, qui prie peut-être, afin de gagner des bons points auprès des hommes et auprès de Dieu. Ce sont souvent d'autres que lui-même qui ont décidé ce qu'il devrait penser, ce qu'il devrait faire pour être quelqu'un de bien. C'est ça qui est ce qui le motive pour faire cette liste de choses qu'on lui a dit de croire et de faire. Eh bien, c'est la peur. Il agit sous la contrainte. Ce ressort de la peur pour nous faire faire ce que d'autres ont décidé, eh bien, se trouve dans bien des domaines, effectivement, de notre société, dans bien d'idéologies, dans bien des religions. Mais Paul donne l'exemple, effectivement, de certains mouvements religieux de son époque qui prétendent que Dieu serait du genre à tenir un dossier sur chaque personne, avec des bons et de mauvais points, et donc pour prier, ou bien pour aller au culte, ou bien pour jeûner, ou faire ceci, faire cela, il faut bien suivre la liste qui a été recommandée, en faisant attention à la nouvelle lune, à quelle saison, à quel jour. L'enfant de la femme libre, lui, c'est celui qui peut agir librement, car il a déjà reçu la promesse, nous dit Paul. Il se sait déjà connu par Dieu, et être connu par Dieu dans le langage de la Bible, c'est-à-dire être déjà aimé et gardé par Dieu. Et donc il n'y a plus ni menace ni chantage, le prix a déjà été donné par avance sans condition. Dieu nous gardera toujours sous son aile puisqu'il nous connaît et qu'il nous aime. Et effectivement, Paul a raison, c'est bien comme ça qu'Abraham se met en route. Au chapitre 12 de la Genèse, Abraham et Sarah se sont mis en route car avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit, Dieu dit à Abraham « Je te bénis et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras bénédiction pour une multitude. » C'est promis, dit Dieu, sans condition. Et donc, qu'est-ce qui motive alors l'enfant de la promesse? Eh bien, c'est l'inspiration que cela donne de se savoir aimé. C'est la beauté du geste ensuite. C'est l'amour que l'on ressent dans le cœur qui nous pousse. Ce n'est plus la contrainte, c'est l'enthousiasme de faire quelque chose de bien comme on peut pour avancer. Et effectivement, ce changement de motivation, ce changement de perspective, change tout. Par exemple, très concrètement, si on aide un clochard en lui payant un sandwich, en se sentant obligé de le faire à contre-cœur, parce que Dieu nous aurait dit d'aimer notre prochain et que sinon Dieu sera très en colère. Eh bien, à ce moment-là, l'homme qui a donné le sandwich, il le fait en réalité en pensant à lui-même, à son avenir éternel peut-être. Et il se sert de l'occasion de cette rencontre avec un pauvre comme un moyen pour faire son propre salut et préparer son dossier que Dieu tiendrait. Alors, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que le pauvre pourra manger à midi, mais quand même, c'est pas génial. Alors qu'avec la promesse faite à Abraham, eh bien, quand on se sait déjà béni par Dieu, quand on se sent déjà grandi, considéré, aimé, eh bien, cette personne-là va pouvoir agir et agir librement. Cela viendra de son propre cœur, de sa joie de faire un peu de bien, de sa joie d'avoir vu la joie d'une personne. Et c'est infiniment plus créatif, infiniment plus bienfaisant, et puis c'est authentique parce que libre. Le geste vient du bon fond de la personne et est source de joie pour la personne, et ça change tout aussi pour la personne qui reçoit. Alors que l'esclave, il est comme écrasé finalement par la contrainte et il est souffrant. En Christ, explique Paul, nous sommes fils ou filles de la promesse et non plus fils ou filles de l'esclave. Grâce au Christ, nous connaissons un peu mieux Dieu. Et donc, que savons-nous de Dieu, donc, nous dit Paul? Eh bien, nous avons appris que nous sommes déjà connus, aimés, considérés. Et donc, notre légitime soif d'être quelqu'un de reconnu, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de validé, quelqu'un digne d'être en sécurité, de faire de belles choses, tout cela est déjà assouvi. Et donc c'est alors librement que nous pouvons nous mettre debout et choisir à notre façon ce que nous pourrons faire. Nous avons là donc une façon de comprendre la religion qui est tout à fait différente. Quand nous prenons le temps de penser à Dieu, ce sera comme quand on va voir un ami. Ce n'est pas une obligation d'aller voir son ami, puisque on sait que l'ami vous restera fidèle de toute façon. On va le voir à cause de notre joie de le voir. Nous allons le voir à cause de notre joie de lui donner de la joie. De même avec Dieu pour ce qui est de ses rendez-vous que sont le culte, que sont la prière, l'étude. C'est simplement par joie d'aller vers Dieu, de ce Dieu qui nous aime. Ces deux types de fonctionnement qui sont présentés ici par Paul, par la contrainte ou par la promesse, ce sont deux types d'alliances avec Dieu qui traversent tous les livres de la Bible. Il y a en Abraham une alliance inconditionnelle. Dieu vient à nous, il choisit de nous bénir avant même que nous n'ayons rien fait. Et Dieu promet de rester fidèle à cette alliance sans condition, même unilatéralement. Il bénit aujourd'hui, il bénira encore et encore. C'est ce que signifie le baptême d'Arthur et notre propre baptême si nous avons été baptisés. Alors ensuite, évidemment, Dieu espère que cela produira de libres fruits, de bons fruits. Ce sera alors des fruits inspirés par la grâce. Et puis il y a un autre type d'alliance dans la Bible, par exemple dans le livre du Deutéronome, nous voyons se développer une alliance conditionnelle, comme si Dieu nous disait « Si tu obéis aux commandements que je te donne sur le mont Sinaï, tu seras béni de multiples façons, tu prospéreras, toi et tes enfants. Mais, ajoute le Deutéronome, et je cite, « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes tes lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et te seront en partage. Suis une épouvantable liste de malédictions sur toutes les dimensions de notre être, de notre vie, pour les générations et générations. Amen. Je n'ose même pas vous la lire, je vous la laisse si vous en avez le goût, la découvrir en allant chercher le chapitre 28 du Deutéronome. Mais cela ne ressemble en rien à la façon d'agir de Jésus-Christ. Il n'a jamais agi ainsi en frappant les coupables, les pécheurs, les gens de mauvaise foi. Bien sûr que non, au contraire. Alors je trouve que ceux qui ont composé la Bible avaient l'esprit très ouvert, acceptant de rendre en compte dans cette bibliothèque qu'est la Bible, de ces deux sensibilités théologiques et spirituelles diamétralement opposées. Néanmoins, il faudrait savoir, Dieu fonctionne-t-il dans une alliance de type conditionnel ou dans une alliance du type inconditionnel? Eh bien, Paul nous dit qu'en Christ, c'est clair, ça ne fait aucun doute, Dieu nous aime et nous bénit sans condition. Il nous a connus, il nous a reconnus et il nous a aimés. Nous sommes pour Dieu une personne essentielle et il nous gardera. Donc nous sommes enfantés par cette promesse. C'est donc librement que nous pouvons vivre, que nous pouvons faire du bien ou non. C'est librement que nous pouvons nous tourner vers Dieu ou non, et puis se tourner vers lui de telle ou de telle façon. Alors bien sûr, quand on se tourne vers Dieu, ça l'aide à travailler en nous, mais il n'en fait pas une condition pour nous bénir et pour nous garder. Cependant, il sommeille toujours en nous l'homme qui a peur. Cet enfant de l'esclave qui craint que Dieu cesserait de nous garder si nous n'obéissions pas à tous les dogmes, toutes les règles de morale que j'imagine obligatoires. Chassez cet esclave, nous dit Paul. Mieux vaut ne pas avoir de religion qu'une religion basée sur la crainte et sur l'obéissance. J'aurais pas osé aller jusqu'à dire ça, mais Paul l'affirme. Chasse l'esclave qui est en toi, dit Paul, car cela enfante en toi un fils qui persécute ce qu'enfante en nous l'Esprit Saint. En effet, comment aimer véritablement un Dieu que l'on craint, qui nous menacerait, comme dans le Deutéronome, des pires malédictions? Au contraire, notre ami si fidèle qu'est Dieu, nous avons tout simplement de la joie à aller le voir pour tout lui dire ce que nous avons sur le cœur, nos questions, nos doutes, nos hésitations, nos espérances. Comment oserions-nous inventer et entreprendre dans notre vie? Comment oserions-nous avoir des idées personnelles, nous poser des questions, si nous avions sans cesse la peur que Dieu nous vomirait de sa bouche, si nous avions mal cru, mal pensé, mal agi? Au contraire, Dieu nous donne son esprit comme un don. Et nous dit que Paul encore, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et puis comment oserions-nous prier si nous pensons que Dieu nous regarde de travers avec notre toute petite foi pleine de doutes, pleine d'oubli de Dieu? Eh bien, les apôtres de Jésus n'étaient pas meilleurs que nous. Ils sont même plutôt pires que nous quand on lit les évangiles. Et ils ont été choisis, ils ont été appelés par le Christ, ils ont été jugés dignes, a priori, d'être considérés comme apôtres. La foi, c'est au fond cela, nous dit le théologien Paul Tillich. La foi, c'est accepter d'être accepté, bien que nous nous sentions inacceptables. Je répète, la foi, c'est accepter d'être accepté, bien que l'on se sente inacceptable. Et pour que cela soit possible, eh bien, chasse l'esclave qui est en toi, nous dit Paul. Chasse la peur. Et libère la femme libre qui est en toi pour enfanter le meilleur par l'Esprit. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. C'est une vigilance à maintenir, car dès que nous baissons la garde, la crainte vient. Elle vient comme les mauvaises herbes dans un jardin, elles surgissent dès qu'on a le dos tourné. C'est pour ça qu'il est utile de nous biberonner à l'Évangile, régulièrement. C'est pour ça qu'il est bon de prier Dieu et de le prier dans la gratitude, car cela nourrit notre confiance en lui et ça chasse la peur. Et cela nous met en route par l'Esprit, l'Esprit qui nous libère. Amen.